Dominique Chauffa.
Le Conseil fédéral veut mieux lutter contre la pauvreté, annonce faite juste avant Noël. Le gouvernement prolonge le travail de sa plateforme de prévention et de lutte, en tout cas jusqu'en 2030. Le Conseil fédéral a également chargé le département de l'Intérieur d'élaborer une stratégie pour réduire la pauvreté. Un bon signal pour les associations qui luttent contre la précarité, mais elles attendent surtout des mesures contraignantes. Gabriella Cabré.
Une politique nationale contre la pauvreté est nécessaire, dixit Caritas, une des plus grandes associations d'aide pour les personnes dans le besoin. Car si une plateforme est utile pour monitorer la situation ou encore permettre une meilleure collaboration entre les acteurs, elle doit s'accompagner d'une stratégie avec des objectifs précis et des moyens contraignants, selon Fabrice Boulet, porte-parole de Caritas Suisse. Pour lui, il faut maintenant s'attaquer aux causes principales de la pauvreté.
Le problème énorme du côté de l'augmentation permanente des primes des caisses maladie, c'est le facteur numéro un quasiment d'appauvrissement d'une certaine couche de la population. Ensuite, juste derrière, on voit la question du prix du logement et aussi un énorme problème. Donc il faut déjà agir là-dessus.
Caritas qui sera consultée pour l'élaboration de cette stratégie. Le Conseil fédéral veut également impliquer les personnes qui vivent dans la précarité. Ce plan devrait voir le jour d'ici 2 ans et demi. Selon le gouvernement, cela permettra d'agir de manière coordonnée contre la pauvreté qui touche près de 700 000 personnes en Suisse.
C'était il y a 20 ans, jour pour jour, le tsunami du siècle déferlait sur les côtes de l'océan Indien. Bilan près de 230 000 morts, dont 113 Suisses. Les pays les plus touchés ont été l'Indonésie, la Thaïlande, le Sri Lanka. Le secteur touristique en Asie du Sud-Est, très apprécié des Suisses, a connu une baisse sensible. Aujourd'hui, des pays comme la Thaïlande font à nouveau partie des destinations phares, Noël compris. Les Houthis, milices du Yémen soutenues par l'Iran. Les Houthis donc multiplient les attaques de missiles et de drones contre Israël dans ce que le groupe présente comme une campagne de soutien à Gaza. Les sirènes ont retenti 4 fois cette semaine en pleine nuit à Tel Aviv et dans le centre d'Israël, obligeant des millions de personnes à courir aux abris. On retrouve Betsabée Salem à Tel Aviv.
En tout, cette année, les Houthis ont lancé plus de 200 missiles et 170 drones vers Israël. Samedi, un missile qui est passé entre les mailles de la défense israélienne a atterri dans un parc de Tel Aviv. Une quinzaine de personnes ont été blessées par les éclats de verre avant même de courir vers les abris. La semaine dernière, un missile a été intercepté, mais son ogive s'est abattue sur une école de la banlieue de Tel Aviv. L'établissement a été complètement détruit. Heureusement, en pleine nuit, il était vide. Alors, le ton monte côté israélien où les autorités comprennent que les 3 frappes menées au Yémen ces derniers mois n'ont pas suffi à dissuader les Houthis. Hier soir, Benjamin Netanyahou a menacé la milice yéménite.
Les Houthis apprendront eux aussi ce que le Hamas, le Hezbollah, l'armée d'Assad et d'autres ont appris.
Le problème, souligne-t-on au sein de l'armée, c'est que les attaques au Yémen, à 2000 km d'Israël, sont bien plus complexes qu'à Gaza ou au Liban. Betsabée Salem pour RTS Info Tel Aviv.
Et les négociations restent difficiles dans cette région. Le Hamas et Israël s'accusent mutuellement d'enrayer les avancées vers un accord sur un cessez-le-feu et vers la libération d'otages détenus dans la bande de Gaza. Les deux camps y sont en guerre depuis plus d'une année. Parmi les principaux points de blocage de ces négociations figure le caractère permanent ou non d'un cessez-le-feu et la gouvernance de la bande de Gaza après la guerre. En hockey sur glace maintenant, la 96e édition de la Coupe Spengler débute aujourd'hui à Davos. Au menu, 2 équipes suisses, Fribourg-Gotteron et le HC Davos, ainsi que la mythique Team Canada et 3 autres invités. Ce tournoi davosien est amical et festif sur le papier, mais il reste une compétition prestigieuse, Grégoire Perrault.
Même si l'ambiance est à la fête, que les familles des joueurs viennent passer la fin d'année dans la station grisonne, que les équipes ont le droit de se renforcer ailleurs et que la pression est bien moins grande qu'en championnat, la Coupe Spengler reste un titre que les gagnants affichent fièrement dans leur palmarès. Avec un format court sur 6 jours, l'erreur n'est pas permise et ce n'est pas l'organisateur, le HC Davos, qui dira le contraire. Le club grison, vainqueur lors de la dernière édition et recordman du nombre de titres à égalité avec le Team Canada, avait dû patienter 12 ans avant d'enfin soulever à nouveau ce trophée il y a une année. Le HC Davos qui fait partie des favoris à sa propre succession. Les Grisons sont en forme cette saison. Tout le contraire de Fribourg-Gotteron, invité cette année et en proie à de grandes difficultés en championnat. Les autres adversaires s'annoncent également coriaces avec le Team Canada composé de joueurs canadiens évoluant en grande partie dans le championnat suisse avec les Allemands de Straubing, les Finlandais du Karpataulu et les Tchèques de Pardubice.
Le premier match cet après-midi opposera Fribourg-Gotteron à Dinamo Pardubice à 15h10. Et puis à 20h10, ce sera au tour de HC Davos de défier le Team Canada. Tous les matchs de la Coupe Spengler sont à suivre sur RTS2. Et puis sur RTS1, place ce soir à une série très attendue. Winter Palace démarre aujourd'hui sur Play RTS et sur RTS1. Il s'agit de la toute première coproduction de la SSR et de la plateforme Netflix. Cette série de 8 épisodes raconte les débuts de l'hôtellerie de luxe dans les Alpes suisses à la fin du 19e siècle. Elle a entre autres été tournée dans le château Mercier à Sierre. Une diffusion internationale est prévue sur Netflix en février. On prend encore des nouvelles du ciel. On a rendez-vous avec le soleil aujourd'hui malgré des bandes de stratus possibles ce matin. Les thermomètres grimperont jusqu'à 3 degrés en plaine et il fera plus chaud en montagne jusqu'à 6 degrés à 2000 mètres. Demain et samedi c'est pareil et pour dimanche on rajoute juste quelques passages nuageux pendant la journée.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Merci. Merci de vous être mobilisés avec nous contre les violences faites aux enfants. Merci d'avoir contribué à leur offrir une enfance heureuse en Suisse et dans le monde. Ensemble, avec la RTS et la chaîne du bonheur, nous pouvons faire face à la maltraitance infantile parce que donner est un jeu d'enfant. Les dons sont encore possibles jusqu'à la fin de l'année sur coeur-rts.ch.
Musique Matin, Marin Piguet.
Voilà, on y arrive. Finalement, Musique Matin, ça continue. Merci d'être à l'écoute et merci d'avoir choisi RTS Espace 2 pour vous tenir compagnie en ce lendemain de Noël. La programmation musicale, c'est toujours un choix de Mitsukare. Thank you. Toute la vivacité de Joseph Haydn à l'instant dans sa symphonie numéro 34 en ré mineur et son deuxième mouvement Allegro avec Thomas Fay à la tête de l'orchestre symphonique de Heidelberg. De Haydn, on passe à Jean-Sébastien Bach.
Thank you.
Jean-Sébastien Bach et son concerto brandebourgeois, qui était sa série de concertos brandebourgeois, des sortes de démonstrations de capacité avec donc toutes sortes d'orchestrations différentes dans les différents concertos. Ici, c'était l'orchestration avec deux corps, trois hautbois, basson, violon, piccolo, corde et basse continue, et c'est le premier de ces concertos brandebourgeois. Nous en entendions les deuxièmes et troisièmes mouvements et nous étions transportés en plein milieu du Brandebourg, encerclé avec l'Académie für Alte Musik de Berlin.
Joy, O Savior, born, for joy, O Savior.
Awake and join the cheerful choir. Encore une petite trace de l'ambiance de Noël et des carols britanniques à l'instant avec Andrew Lawrence King à la harpe, accompagnant l'ensemble Anonymous Four, quatre chanteuses pas du tout anonymes puisqu'elles s'appellent Marsha Genetsky, Susan Hellauer, Jacqueline Horner et Johanna Maria Rose. À l'instant donc, à l'enseigne de Musique Matin sur RTS Espace 2 dont vous êtes à l'écoute. Et restez-y puisque dans quelques instants, une vingtaine de minutes, un peu moins, je recevrai Raphaël Hardmeyer qui viendra de nous parler d'un oratorio de Noël qui se joue cet après-midi à Vevey. Restez donc à l'écoute, c'est dans quelques instants.
Musique Matin. Mm-hmm.
Billie Holiday dans ce standard. Say it with a kiss, dis-le avec un baiser, ça fait toujours plaisir. Dans l'enchaînement de cette pièce, vous l'aurez remarqué, un peu étrange, d'Alexander Mihailovich Raskatov, The Season Digest, une pièce pour violon, orchestre à cordes, percussions et piano préparé avec l'ensemble de chambre Baltica, ainsi que Guidon Kremer au violon. Encore quelques notes d'Antonine Dvorak avant de recevoir notre invité du jour.
Thank you.
Un petit air de casse-noisette également dans cette pièce, même si c'était du Dvorak et ses danses slaves, extrait de sa première série, la quatrième danse en fa majeur, avec Antal Dorati à la tête de l'Orchestre Philharmonique Royal de Londres. Vous êtes à l'écoute de Musique Matin sur RTS Espace 2, il est 8h37, l'heure de notre invité du jour. Bonjour Raphaël Armeyer.
Bonjour.
Vous venez nous présenter cet oratorio de Noël qui sera donné cet après-midi. Ça sera à 17h au Temple Saint-Martin de Vevey avec l'ensemble La Fontana Cantabile. Alors, avant de venir sur ce tube que tout le monde adore, l'oratorio de Noël, peut-être un mot sur cet ensemble La Fontana Cantabile. C'est pas la première fois que vous venez le présenter, mais il me semble que maintenant donc c'est un ensemble qui est bien instauré dans la région de l'Arc Lémanique.
Oui, parce qu'on s'est ouvert à pas mal de répertoires. Puis surtout, la philosophie, c'est qu'on a été créé sur la base de rencontres au conservatoire, que ce soit à la HEM, donc la Haute École de Musique de Genève, ou l'EMU de Lausanne. Et puis finalement, on a de plus en plus commencé à travailler avec toute une génération de jeunes musiciens. On a tous grandi entre-temps. Et puis, on a toujours à cœur de transmettre, même si on n'est pas si vieux que ça, mais on aime bien transmettre et puis avoir aussi des étudiants actuels qui participent à nos projets. Donc c'est un petit peu le reflet des jeunes professionnels et des étudiants de l'Arc Lémanique et au-delà.
Le but de cet ensemble, c'est d'être dédié spécifiquement à la musique de Bach, parce qu'il me semble que c'est en général ce que vous êtes venu nous présenter à ce micro, ou est-ce que ça aborde d'autres répertoires?
Très bonne question. En fait, ça évolue pas mal. C'est vrai qu'avec l'oratorio de Noël, c'est un cap symbolique qu'on franchit, parce qu'on a fait tous les oratorios de Bach, passion. Et en fait, on va commencer à s'ouvrir à d'autres répertoires. Peut-être j'aurai la chance de revenir vous en parler. Mais pour faire bref, on va faire d'ici décembre 25, donc l'année prochaine, on va faire le Cantique du Soleil avec Ophélie Gaillard. On va faire le 30 mars et le 4 avril au Victoria Hall. On va faire la Missa Hispanica de Johann Michael Haydn, accompagné du sempiternel Requiem de Mozart, dont on se lassera jamais. Mais voilà, on s'ouvre s'ouvre à d'autres styles, mais c'est clair que cette expertise baroque qu'on a pu développer, on va pas la quitter d'aussitôt.
Vous avez une expertise baroque, mais vous l'avez déjà signifié, une expertise des tubes, parce que vous avez fait Les Passions, vous êtes venu une fois pour la Messe en Si, oui. L'Oratorio de Noël, vous donnez cette année les cantates 4, 5, 6, donc la Juste. Deuxième partie, mais vous aviez déjà donné les trois premières. Oui. C'était une envie de directement se plonger avec les plus grands tubes de Bach et ses plus grandes messes oratorio, ses plus grandes œuvres, pour à la fois attirer le public, se faire connaître, et également les musiciens en guise de motivation.
Alors, je trouve que dans la musique de Bach, il y a comme, ça c'est très subjectif ce que je vais dire, mais pour moi il y a une forme, un des grands piliers de la musique classique occidentale. Donc en fait, ne pas s'initier à ce répertoire-là, j'ai l'impression qu'on raterait une étape. L'autre élément, oui, le public adore ses œuvres. On a aussi culturellement un petit peu de la sympathie et de la sensibilité pour ce type de musique-là. Et puis, c'est aussi très pragmatiquement des offres que l'on peut faire vraiment dans les circonstances aussi des fêtes, on va dire, religieuses qui y sont associées. Les passions, on les trouve chaque année. Donc, c'est sûr qu'on va pas se plaindre quand l'année prochaine, on sait déjà qu'il y a de nouveau une passion. Donc, c'est un avantage, faut le dire. Et puis bon, c'est une musique exceptionnellement belle. Et puis après, bah voilà, il y a le corpus de 200 cantates, mais là, ça c'est une autre affaire.
Tout à fait, oui. Un petit projet de cycle de cantates à venir.
Peut-être quelques-unes, mais c'est vrai qu'on fait ça en plus petit format aussi à l'église allemande à Montreux, dans une autre association. Et là, c'est vrai que les cantates, de plus en plus, on les fait avec vraiment dans une formation musique de chambre. Et ça fait aussi un très beau résultat.
Allez, explorer peut-être également des pièces moins connues et même pas du tout connues, à avoir un objectif d'exploration. Ça peut aussi être un des objectifs de développement de l'ensemble La Fontana Cantabile.
Oui, c'est ce qu'on avait fait aussi parfois avec des projets a cappella. On avait fait des arrangements très originaux de pièces de Mahler. Il s'appelle Klitus Gottwald, c'est un arrangeur vraiment réputé. Et puis, on s'est rendu compte que c'était très beau de faire de la musique a cappella, mais pas toujours évident en termes de public. Mais bien sûr, l'ouverture, c'est très important. Pour ce concert en 2025, dont je ne fais pas tout de suite la promotion, mais on va notamment... et c'est bientôt, on va pouvoir communiquer là-dessus, on va faire une très rare cantate de Franck Martin. Donc voilà, vous voyez, on s'ouvre un petit peu à tous ces compositeurs. Mais je pense que ces compositeurs ont aussi été très émus parce que ça faisait Bach. Donc je trouve qu'il y a un échange générationnel, un échange à travers les époques. Et nous espérons aussi nous inscrire dans cette tradition vocale de manière plus universelle qui est entre différentes générations.
Venons-en au concert de tout à l'heure. Je l'ai dit, à 17h au Temple Saint-Martin de Vevey, les cantates 4-5-6 de l'Oratorio de Noël. Comment on se plonge encore aujourd'hui dans ce cycle et ces pièces mythiques que sont l'Oratorio de Noël? Qu'est-ce qu'il y a encore à ajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter ou on se laisse simplement porter par ces cantates?
Alors, en fait, je crois que déjà ce qui est génial, c'est la rhétorique, c'est la qualité aussi du texte finalement. Et on se rend compte que quand une musique est si bien faite chez Bach, c'est parce que on peut tellement encore chercher des phrasés, des idées d'interprétation. Ensuite, ce qu'il faut aussi dire, c'est que les ensembles qui présentent l'Oratorio de Noël, ils font souvent des combinaisons de cantates en fonction de l'instrumentarium qu'ils ont. Et nous, on les a vraiment fait dans l'ordre chronologique. Et donc, Jahrhundert Frohlocket, qui est extrêmement connu, on l'entendra pas. Et puis, du coup, les cantates 4, 5 et 6 sont un tout petit peu moins connues. Enfin, la 4 un peu moins connue parce qu'elle nécessite des cornistes. Et c'est juste à l'occasion.
Il faut les faire venir juste seulement pour ça. C'est en plus un seul mouvement, le mouvement
voilà,
d'ouverture.
Voilà, ouais, le choral de la fin, vous avez tout à fait raison. Falt mit Danken. Mais alors, pourtant, que c'est une cantate.
C'est pas très rentable, en tout cas, en termes entrepreneurial.
On peut parler comme ça, mais c'est aussi une cantate extrêmement touchante qui a, par exemple, des duos basse, soprano, de récitatif. Les duos de récitatif chez Bach, c'est du théâtre, mais d'une qualité exceptionnelle. On a le Flöst mein Heiland, le fameux air avec la soprano qui a un écho derrière. Ça, c'est aussi un air très réputé. Et puis, voilà, la cantate numéro 5 qui est très virtuose. On a l'impression que c'est un brandebourgeois qui a été écrit pour cœur. Et puis, la sixième qui est de nouveau un peu dans ce côté trompette.
Les trompettes
éclatantes. Voilà, c'est vraiment des ambiances différentes. Et j'ai l'impression que la façon de les aligner, de les combiner, peut faire un concert radicalement différent, vraiment. Ouais.
Eh bien, on vous serait joué d'aller l'écouter tout à l'heure. C'est à 17h au Temple Saint-Martin de Vevey. C'est cantate 4, 5, 6 de l'Oratorio de Noël, direction Jean Gauthier, Pignon Blanc, avec encore les solistes Marine Margot, Coralie Kellier, Augustin Laudet, et ainsi que vous, Raphaël Hartmeyer, avec l'ensemble La Fontana Cantabile. Encore une petite question sur le nom de l'ensemble. D'où est-ce qu'il est venu, cette fontaine qui chante?
Bah, je trouve qu'en fait, quand la musique est harmonieuse, fluide et généreuse, eh bien, on pense à ces fontaines d'abondance. Mmh. Et donc, finalement, ce nom nous est venu un peu tout naturellement.
Et je vous laisse avec le premier mouvement que l'on entendra tout à l'heure, ce chœur d'ouverture de la quatrième cantate.
Mitanken. Thank you.
La vie de l'homme était autre chose qu'un rêve.
Lady in the Dark, cette comédie musicale de Kurt Weill, à l'instant cet air de Lisa, One Life to Live. John Elliott Gardiner à la tête du Norddeutsche Rundfunk Orchester d'Hambourg avec la voix de la mezzo-soprano Anne-Sophie von Otter, dans l'enchaînement donc de cette quatrième cantate de Jean-Sébastien Bach, de l'oratorio de Noël bien sûr, la version de Sigiswald Kuijken à la tête de la petite bande. Un choix musical de Mitsou Carré à la Planesse dans cette deuxième estampe pour piano de Claude Debussy, la soirée dans Grenade. J'espère que votre journée se passera bien à l'écoute d'RTS Espace 2. Merci à Raphaël Hardmeyer d'être passé nous voir. Après les informations, Juliette Granier et sa petite compagnie sur Espace 2. Les informations, il est 9h.